la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir au studio Vladimir Stoupel. Bonjour.
Bonjour.
Chef d'orchestre, pianiste. Voilà, c'est tout.
Musicien.
Musicien.
Tout simplement musicien.
C'est important.
Oui.
Qui va nous parler du 14e festival à Aigues-Vives en musique, donc à Aigues-Vives. La musique va au village, hein, c'est ça qui est important. Et on espère que beaucoup de personnes seront attirées par ce programme qu'on va un peu vous détailler. Alors, un programme qui a lieu le 19 et 20 juillet à la salle Jean Bosque à Aigues-Vives. Et nous allons parler d'abord du vendredi 19 à 21h avec le récital du duo Ingolson-Stoupel, c'est-à-dire vous.
Tout à
et
fait.
Au piano.
Au piano.
Et
mon épouse.
Et votre
Judith
épouse.
Judith Ingolson, au violon.
Voilà. Elle est votre épouse. Vous oui. le dites, vous le proclamez.
Je le proclame haut et fort. Parce que et surtout que cette année, nous avons fêté 15 ans de notre mariage.
Ah ben voilà, bon
voilà.
anniversaire.
Merci beaucoup. Et nous sommes mariés à Aigues-Vives.
Ah voilà. Oui, parce que vous devancez ma question. Pourquoi Aigues-Vives ? Parce que vous êtes tous les deux d'origine lointaine et vous vous êtes rejoints et voilà, il y a cette universalité de la musique. Et alors, entre Baltimore, la Russie, l'Islande, ça...
Et Berlin.
Pourquoi Berlin ? Pourquoi Aigues-Vives, ce tout petit village ?
Parce que, comme pour la plupart des festivals, je suppose, ça commence par l'amitié.
Ouais.
Ça commence toujours par l'amitié et surtout, c'était une amitié très forte et très intense qui me liait. Mon amie la plus proche qui nous a quittés en septembre 2020, malheureusement, Marianne Chapiro, qui a choisi son domicile à Aigues-Vives.
Voilà.
Donc, j'ai visité Aigues-Vives pour la toute première fois en 2005. En 2006, je suis venu avec Judith et on s'est dit pourquoi pas un festival.
Voilà.
C'était un lieu idéal.
Ouais. Comme c'est un très joli village. Tout le monde connaît Aigues-Mortes, mais Aigues-Vives... Et vivant.
J'ai mieux habité à Aigues-Vives qu'à Aigues-Mortes, quand même.
À Aigues-Mortes, il y a le tourisme l'été.
Oui.
Et puis, il y a le froid et le vent l'hiver.
Oui, absolument.
Mais moi, j'aime bien Aigues-Mortes l'hiver, justement, quand il n'y a personne.
Quand c'est calme.
Il y a
oui.
quelque chose de magnifique. Mais Aigues-Vives, là, donc, c'est le 19 et 20 juillet. Et cette année, pour la 14e édition, il est beaucoup plus court. C'est la première remarque que je me suis faite. Tiens, que 2 jours.
Oui.
Mais parce qu'en fait, il y aura un deuxième festival.
Tout à fait. Cette fois-ci, cette année, nous avons décidé de couper la poire en deux. Pas tout à fait en deux. Ça veut dire que l'édition estivale aura lieu là maintenant le 19 et le 20 juillet et l'édition hivernale aura lieu fin novembre, le dernier week-end de novembre, avec 3 concerts. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Étalé sur l'année, comme ça nous permet de présenter beaucoup d'œuvres à notre public et aussi d'assurer la continuité de la musique classique dans un endroit comme Aigues-Vives qui est bien situé entre Nîmes et Montpellier, mais tout de même, la musique classique au quotidien, il manque.
Il manque. Donc, vous êtes un porteur, en fait, de musique dans les villages. Et souvent, dans les théâtres, il y a des théâtres en appartement maintenant pour dire, si les gens ne viennent pas au théâtre, c'est le théâtre qui va vers les gens. Et vous, qu'est-ce que vous faites avec la musique ? Et ce festival attire beaucoup de monde. 14e édition est bien connue. Vous avez un public averti, un public de fidèles, mais vous essayez vraiment d'attirer un maximum de personnes.
Bah c'est toujours notre but d'attirer le maximum de personnes, bien entendu, parce qu'on veut présenter notre musique à tout le monde. On ne fait pas la différence entre le public averti et le public qui vient pour la toute première fois.
Donc découvrir.
Voilà.
Et c'est aussi l'autre aspect de vos objectifs, faire découvrir. C'est-à-dire que vous êtes spécialisé dans les œuvres qui ne sont pas très jouées ou qui ne sont pas très éditées. Et vous êtes vraiment, je reprends ce mot, j'en trouve pas d'autre, un porteur, un messager de la tradition, de l'histoire.
Je trouve que c'est très important de faire découvrir la musique plus du tout connue, pas du tout connue, ou pas encore connue, au monde extérieur. Parce que, imaginez-vous, quand je suis venu en France en 84 de l'Union soviétique, je suis arrivé en décembre 84 de l'Union soviétique à Paris, la chose qui m'a frappé le plus, ce n'était pas les magasins de nourriture remplis jusqu'à ne plus en finir, par rapport à l'Union soviétique, bien entendu, c'était un paradis. Les magasins de vêtements remplis jusqu'à ne plus en finir, mais les librairies. Les librairies, avec des tonnes de livres. Mmh. Et je me suis dit, il faut que tu apprennes le français. C'est ce que j'ai fait.
Vous ne parliez pas du tout en arrivant ?
Non.
Ah,
non,
bravo.
Je ne parlais pas du tout en arrivant. Je suis arrivé en janvier 84 et fin janvier 85, j'ai été invité chez Pierre Bouteiller à la Radio France Musique pour un interview. Mmh. Et il a catégoriquement refusé de faire recours à un traducteur. Il m'a dit, soit tu te débrouilles, soit tu viens pas. Je me suis débrouillé.
Eh bien, bravo. Bravo à vous. Mais bon, c'est la musique, là aussi, c'est un très bon véhicule de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et dans cette ouverture d'esprit, on va écouter la première sonate de Robert Clark. Parlez-nous de cette Rebecca Clark.
Donc, Rebecca Clark, pourquoi je vous ai parlé de librairie ? Parce qu'imaginez-vous une librairie avec une dizaine de livres. C'est tout. Et ce sont toujours les mêmes livres.
Ouais.
C'est à quoi rassemble, je ne veux pas accuser personne, bien entendu que non, mais c'est à quoi notre répertoire a commencé à ressembler.
Mmh.
Toujours les mêmes symphonies de Beethoven, toujours les mêmes sonates de Beethoven, toujours les mêmes symphonies de Brahms. Finalement, il y a beaucoup plus que ça.
Mmh.
Donc, il faut avoir une librairie avec plein de livres.
De tous les genres.
De tous les genres. Et donc, mmh. Rebecca Clark fait partie des compositeurs qui ont été découverts uniquement dans les années 90, à peu près. Après sa mort, elle est morte en 1979. Mmh. Et donc, c'est sa sonate pour alto et piano qui l'a rendue célèbre déjà pendant sa vie, qui a gagné le deuxième prix à un concours important aux États-Unis. Sauf que, à l'époque, personne ne voulait croire que c'était une femme qui a écrit cette sonate. Ah oh non, il y a quelqu'un qui lui a aidé, peut-être il y a un amant qui a aidé. Ça ressemble beaucoup à la musique du compositeur Ernst Bloch. Non.
Oui, mais c'était ça, c'est le problème de la place des femmes dans la société, pas
absolument
uniquement dans la musique.
Alors absolument. Et donc, ces deux sonates pour violon et piano n'ont été publiées qu'en février 2023. Vous vous rendez compte, il y a un tout petit peu plus d'un an.
Mm.
Les deux sonates ont été publiées et Judith et moi, on les a appris tout de suite et on les a enregistrées ensemble avec cette sonate pour alto et piano en juillet 2023 et le disque est paru en janvier 2024.
Donc c'est tout récent.
C'est
donc
tout récent.
À ce festival d'Aigues-Vives en musique, on découvre quelque chose de tout récent dans l'enregistrement. Bien, je vous propose qu'on l'écoute. Merci Vladimir Stoupel de nous faire découvrir donc cette sonate pour violon et piano en sol majeur 1908 que vous interprétez avec beaucoup de plaisir, je suppose, Judith.
Absolument.
Et vous, et que vos auditeurs partageront ce jour-là, le 19 juillet. Alors, plus connu ensuite, Forêt. Donc là, vous déviez un petit peu de vos objectifs, mais quand la musique est bonne,
elle est très très belle. Ça fait partie de nos œuvres préférées. Ça fait vraiment partie de nos œuvres préférées que nous avions aussi enregistrées. Nous avons enregistré les deux sonates de Forêt pour violon et piano dans le cadre de notre cycle qui s'appelle Concert centenaire. Le cycle Concert centenaire a été consacré aux compositeurs autour de la Première Guerre mondiale. Nous avons démarré ce cycle en 2014 et ça a continué jusqu'en 2016-2017. Et on était labellisés par la mission centenaire.
Oui, par la mission centenaire. Il y a eu de très très belles choses pour le centenaire.
Oui.
Et c'est pour ça que le programme de hivernal sera consacré à la Seconde Guerre mondiale. En fait,
oui,
c'est un peu la suite. Quoi.
C'est un peu la suite.
Là, ce n'est pas le centenaire, c'est les 80
non,
ans.
C'est 80 ans. Je retourne brièvement chez Forêt, qui nous a quittés en 1924.
Ah oui,
ça
donc
aussi,
c'est aussi...
c'est aussi, oui, oui.
Voilà, ça justifie, voilà, s'il y a besoin de justifier,
voilà,
en fait.
Et le programme hivernal, qui sera consacré aux compositeurs autour de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc... Messiaen, Poulenc, Millau, c'était le soif de la liberté et le soif de la libération. Et c'était vraiment une période très intense. Très
dans
intense.
Le contexte actuel de ce mois de juillet 2024, un peu compliqué, je crois que c'est important de rappeler justement ces notions de liberté, de tolérance.
Et de la démocratie.
Et de démocratie. Ouais. Et donc Forêt, ben, y participe.
Thank you.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous continuons avec grand plaisir donc, cette rencontre avec Vladimir Stoupel. Merci d'être venu. Un jour de Tour
Merci
de France.
De m'avoir invité. C'est une... Bah, il y a des trains qui circulent. Hein.
Vous n'êtes pas venu à vélo?
Non.
Vous n'avez pas le maillot jaune?
Non, je n'ai pas de maillot jaune. J'ai mon maillot jaune à Berlin. J'ai mon vélo à Berlin, mais à Aiguille, avec cette chaleur, je ne risque pas trop.
Voilà. Alors, la troisième partie de votre programme, c'est Debussy. Alors là aussi, on peut dire, c'est connu Debussy, mais pourquoi avoir choisi Debussy?
Pourquoi avoir choisi Debussy? Parce que ça fait, si vous voulez, la continuité avec Gabriel Fauré. Mmh. Tous les deux sont de la même époque. Et j'admire beaucoup cette sonate parce qu'elle représente, si vous voulez, sur un temps très court, toute l'œuvre de Debussy. Mm. Et il a beaucoup d'humour aussi, sauf que Debussy l'avait écrite lorsqu'il était très malade. Mm. Il était gravement malade. Mais il a trimballé son piano avec un violoniste dans les hôpitaux en 1916-1917. Il faisait des concerts pour des soldats blessés.
Oui.
Dans les hôpitaux. C'est un héros. Je l'admire beaucoup, je respecte beaucoup Debussy.
Ah, mais tous ces artistes, on dit souvent les artistes, ils sont hors de la réalité, mais non, que ce soit en littérature, en poésie, en musique,
mais pas du tout.
En cinéma également, en chanson, oui. En spectacle. Il y a eu beaucoup de choses qui ont... Et puis, il y a beaucoup d'artistes qui sont morts aussi dans cette Première
Absolument.
Guerre mondiale. Hein, et puis,
Absolument.
La Seconde Guerre mondiale.
Et la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que c'est très important que les artistes s'engagent pour oui. propager la culture et pour propager la démocratie. C'est extrêmement important.
Et je répète, en ce mois de juillet, à Aigues-Vives, c'est Aigues-Vives en musique, mais c'est aussi Aigues-Vives en solidarité, en fraternité. Et ce n'est pas la peine qu'on dise à qui nous pensons, bien évidemment, ou à quel pays, qui sont trop nombreux, justement, à souffrir. Thank you. le deuxième jour, le samedi 20 juillet, à 21h, toujours à la salle Jean Bosque à Aigues-Vives, donc le festival Aigues-Vives en musique, c'est un récital de piano du père Paul Maillet. C'est un de vos amis de Baltimore.
Tout à fait. Père Paul Maillet, comme son nom l'indique, a des origines françaises.
Ben oui.
Oui. Il a de la famille à Paris d'ailleurs. Il a fait ses études de pianiste professionnel à Eastman School of Music, c'est à Rochester, New York. Et après, il est passé au célèbre conservatoire Peabody à Baltimore.
Et puis il a eu l'appel
et il est devenu prêtre catholique. Il est vice-recteur de l'Académie Sainte-Marie. Il fait partie de l'ordre des Saint-Sulpiciens. Donc il a beaucoup de points en commun avec la France.
Et cette académie... ça ne l'a pas empêché
Il a continué d'enseigner le piano. C'est un très bon enseignant également. Il enseigne plein de choses à l'Académie de Sainte-Marie, qui est une toute première académie sur le sol américaine pour l'éducation des jeunes prêtres, reconnue par Rome. C'était la toute première académie reconnue par Rome.
Donc là, il vient à Aigues-Vives par amitié.
Là, elle vient à Aigues-Vives. C'était tout d'abord, bien entendu, notre invitation, parce que nous l'avions entendu à plusieurs reprises à Baltimore dans le récital. Et ensuite, c'était une heureuse coïncidence, comme quoi il y avait affaire à Paris.
Il
a pu venir à Aigues-Vives.
Oui, nous sommes très heureux
Donc nous sommes très heureux de l'accueillir. Et je trouve que c'est un programme excitant. C'est un grand spécialiste de Rachmaninov.
Et donc c'est ce qu'on va écouter en générique de fin. Quel morceau vous avez choisi?
On va écouter un moment musical de Rachmaninov.
Donc qui sera le générique de fin, mais avant de l'écouter. Et je vous remercie encore d'être venu pour nous parler de ce festival Aigues-Vives en musique.
Merci de me recevoir.
Je voulais vous demander, vous avez dit que c'est un excellent pédagogue, Judith et vous êtes aussi des excellents pédagogues?
Je ne peux pas parler de moi-même, je sais que Judith, elle est excellente pédagogue, elle est professeure du violon au conservatoire Peabody, à Baltimore, et elle n'arrête pas à enchaîner de stages. Elle enseigne dans les stages, et là maintenant elle vient en France, et après elle retourne aux États-Unis pour encore enseigner dans un stage.
Ben écoutez... belle vie musicale à tous les deux, ou à tous trois, si j'inclus le père Paul Maillet. Et nous finissons en musique, cela s'impose pour ce 14e festival Aigues-Vives en musique, la salle Jean Bosque, les 19 et 20 juillet à 21h. Merci.
Merci à vous.